Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Carminati et Yvan Charby à la technique, préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Retrouvez Adèle justement à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle continuera cette conversation sur Albert Camus, autour d'Albert Camus en compagnie de son petit-fils David. Car c'est la suite et le milieu ce mercredi d'une semaine sur Albert Camus. Après avoir entendu hier Agnès Piquel se promener dans l'œuvre romanesque d'Albert Camus, avant d'écouter demain Denis Salas et Jean-Yves Guérin revenir sur la question du terrorisme dans l'œuvre de Camus, c'est aujourd'hui le sartrien Bernard-Henri Lévy qui vient, en loyal sartrien, faire la paix avec Albert Camus.
L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale. Parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. Camus, à 20 ans, brusquement frappé d'un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il s'y est fait. Il a pensé son insupportable condition. Il s'est tiré d'affaire. Et l'on croirait pourtant que ses premières œuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d'ailleurs. L'absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu'il ne pose plus à personne. Ce silence, qui n'est même plus un silence, qui n'est absolument plus rien. Je n'y crois pas. Dès qu'il se manifeste, l'inhumain devient partie de l'humain. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n'en est pas séparable la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future.
Bienvenue donc pour ce troisième rendez-vous, cette troisième rencontre autour de la pensée d'Albert Camus. C'est donc de Sartre et Camus qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Sartre et Camus, et on va commencer par la fin, c'est-à-dire en l'occurrence, me semble-t-il, nous sommes le 7 janvier 1960, c'est un article de Sartre qui vient de paraître, qui paraît dans France Observateur. On est juste donc après la mort de Camus, Camus est mort 3 jours plus tôt. Et là, vraiment, il faut reconnaître, admettre la grandeur de Sartre dans ce texte et dans cet hommage.
La grandeur, oui, la beauté du texte d'abord et l'émotion qui s'en dégage à chaque lecture et là de l'avoir entendu lire à l'instant, je dois dire, voilà, m'a bouleversé de nouveau, comme chaque fois que j'entends ce texte. Et d'autant que l'on sait, bien sûr, on l'entend avec en fond sonore, la polémique qui les a séparés, les insultes qui se sont échangées, la bassesse qui a été celle d'un des deux protagonistes, de Sartre, dans la polémique, et de Sartre et des Sartriens. Et ça donne en effet une couleur tout à fait extraordinaire à ces quelques lignes qu'on vient d'entendre. Oui, cette œuvre mutilée qu'il faudra s'habituer à penser comme totale. C'est tellement beau, cette recherche orgueilleuse du bonheur, je crois. Orgueilleuse, oui. tout ça est très beau, voilà. Et Sartre était capable, cet homme qui passait pour un cœur sec, qui passait pour un homme au sang-froid quasi baudelairien, était capable, dans quelques circonstances, il y a la préface à Adana Rabin-Nizan, le tombeau pour Merleau-Ponty, et ce texte-là qui, pour moi, est le plus beau des tombeaux sartriens.
Dans le panthéon sartrien, il y a quatre figures. Vous avez parlé de Nizan. Nizan est mort à 36 ans, comme Frantz Fanon, qu'il faut inclure dans ce tombeau sartrien. On va parler de Fanon tout à l'heure, quand on va rentrer dans le détail de la querelle qui les a objectivement opposés l'un à l'autre, Sartre et Camus, Fanon, Merleau-Ponty, Merleau, qui est mort à 54 ans, tout ça, même période, Nizan avant, mais Fanon, Merleau et Camus, mort à 47 ans. Il y a comme cela un panthéon sartrien, des grands amis, des grands ennemis, des grands amis devenus des ennemis objectifs que Sartre a perdus. La raison pour laquelle je vous ai proposé de venir parler aujourd'hui de Sartre et Camus, c'est que dans un article que vous avez écrit pour Le Monde, au moment de toutes les commémorations camusiennes, en ce mois de janvier, vous avez terminé le papier en disant « Impossible, même et surtout quand on est sartrien, d'avoir raison contre Camus. » Alors, c'est peut-être une phrase sartrienne, mais c'est une phrase que peu de sartriens ont prononcée. Quel sens donnez-vous à cette phrase ?
On a pris l'habitude, avec le temps et avec les paresses inhérentes à l'esprit de système et à l'esprit de classification, on a pris l'habitude de penser ces deux personnages comme totalement incompatibles. Enfin, Corneille et Racine, ce genre de grandes oppositions scolaires et qui participent du cliché. Alors d'abord, je crois qu'il y a beaucoup de proximité entre ces deux hommes. L'admiration d'abord que Camus vouait à Sartre, très très grande, l'ancrage commun dans le nietzschéisme, qui est la référence commune aux deux, le nietzschéisme de la nausée et le nietzschéisme de Noce, et en particulier de Noce Antipasa. Alors c'est pas le même nietzschéisme naturellement, mais enfin c'est cet ancrage-là. Et puis, je crois surtout que, ça c'était la thèse en effet, si je me souviens bien de cet article du Monde, comment dire cela ? Je crois au fond que la philosophie implicite de la politique camusienne, c'est-à-dire la manière juste de fonder en raison l'antitotalitarisme de Camus, je n'en connais qu'une parmi les contemporains, c'est celle de Sartre. Pour moi, Sartre a fait la philosophie nécessaire à la politique camusienne. Pour le dire en d'autres mots, Camus passe à juste titre pour la grande figure fondatrice de la culture des droits de l'homme, la culture démocratique opposée à toutes les radicalités, l'esprit de mesure, l'éloge de la révolte et la méfiance à l'endroit des révolutions, le refus de la dictature de l'histoire, ce qu'il appelait l'historisme. Tout ça, c'est la politique camusienne. Et ce que je pense, et c'est la bizarrerie du rapport entre ces deux personnages, entre ces deux pensées, ce que je pense, c'est que il n'y a pas dans la philosophie de Camus de quoi fonder véritablement, de quoi donner un sol solide à cette politique-là. La philosophie de Camus, qui est une philosophie de l'assentiment, une philosophie du oui au monde, une philosophie bénisseuse, une philosophie naturaliste, une philosophie qui dit non à l'histoire pour dire oui à la nature, elle n'est pas raccord avec cette politique antitotalitaire. Il y a quelque chose dans la philosophie de Camus qui est très en retrait de sa politique, qui est beaucoup moins antitotalitaire que sa politique. Et ma thèse, et je crois, il me semble que je n'ai pas totalement tort, ma thèse c'est que la philosophie qui rend vraiment compte de cette politique antitotalitaire, la philosophie qui arrive à l'heure de cet antitotalitarisme camusien, c'est celle qu'exprime Sartre dans son pessimisme radical, celui qu'on trouve par exemple dans un grand et beau texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» et qui pourrait être signé Camus, et qui dit « La liberté d'un homme, c'est de refuser la dictature de l'histoire, mais c'est de refuser la dictature de la nature, mais c'est de refuser quelque assignation que ce soit à un ordre du monde. » Bref, Sartre pose les bases d'un antitotalitarisme ontologique qui me semble faire pair avec, s'apparier avec, faire deux têtes au même aigle d'un antitotalitarisme dont Camus figurerait la tête politique. Donc, dans mes rêveries de jeune homme d'autrefois, et dans mes rêveries d'homme qui, hélas, n'est plus jeune, mais qui a travaillé un peu sur tout ça, je me plais à penser une espèce de chimère, un corps à deux têtes, un aigle à deux têtes, comme aurait dit Cocteau, un autre de leurs contemporains, dont la tête politique serait Camus et la tête philosophique serait Sartre, les deux se regardant d'un regard et d'un sourire bienveillant.
D'un regard et d'un sourire bienveillant, qu'ils n'ont pas eu toujours.
Non, hein, mais qu'ils ont à la fin dans le texte qu'on vient de lire.
Qu'ils ont à la fin dans le texte qu'on vient de lire. Sartre, d'ailleurs, est coutumier du fait, l'hommage qu'il rendit à Merleau est de même nature. Fanon, il n'a pas eu le temps de se fâcher avec lui. Fanon est mort trop vite. Deux, trois petites choses, encore pour rester un instant sur cet hommage de Sartre. Il parle à un moment, toute vie arrêtée, il dit, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse. Ce qui est une référence typiquement sartrienne, comme vous savez, qui est une référence qui est extraite de la Nausée. Dans la Nausée, il y a, pour ceux qui l'ignorent, et c'est un texte magnifique, alors c'est un livre, on va en entendre un passage tout à l'heure, c'est un livre écœurant à plus d'un titre, opaque, difficile et en même temps merveilleux, avec des éclaircies, des moments d'éclaircies, qui sont le moment où Roquentin, l'anti-héros de la Nausée, fréquentant le bar des cheminots, entend une négresse chanter un air de jazz, et il entend à ce moment-là, dans cette musique, dans cette rigueur, quelque chose qui est de nature à justifier l'existence sans pour autant lui trouver un sens. Et il parle du disque, et il dit que la musique se trouve au-delà du disque lui-même. Référence donc sartrienne au disque qu'on casse, il assigne à Camus, finalement, en parlant de cela, le rôle d'une éclaircie. De fait, Camus était le philosophe du soleil que Sartre n'était pas. Et je voudrais, dans cet ensemble et dans ces textes, on va parler de l'histoire, on va parler de l'idolâtrie de l'histoire, telle que Camus l'a désignée, l'a fustigée chez Sartre. Mais avant cela, on va commencer par le moment où ils se ressemblaient et où, comme tout ce qui se ressemble, on voit saillir des différences, mais qui sont des différences de climat, des différences d'ambiance, des différences de style également, des différences en un sens fondamental, en un autre superficiel. On va entendre simultanément un extrait de La Nausée et un extrait de L'Étranger.
Au large, nous avons fait la planche, et sur mon visage, tourné vers le ciel, le soleil écartait les derniers voiles d'eau qui me coulaient dans la bouche. Nous avons vu que Masson regagnait la plage pour s'étendre au soleil. De loin, il paraissait énorme. Marie a voulu que nous nagions ensemble, je me suis mis derrière elle, pour la prendre par la taille, et elle avançait à la force des bras, pendant que je l'aidais en battant des pieds. Le petit bruit de l'eau battue nous a suivis dans le matin jusqu'à ce que je me sente fatiguée. Alors j'ai laissé Marie et je suis rentrée en nageant régulièrement et en respirant bien. Sur la plage, je me suis étendue à plat ventre près de Masson et j'ai mis ma figure dans le sable. Je lui ai dit que c'était bon et il était de cet avis. Peu après, Marie est venue. Je me suis retournée pour la regarder avancer et elle était toute visqueuse d'eau salée. Et elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée flanc à flanc avec moi, et les deux chaleurs de son corps et du soleil m'ont un peu endormie. Marie m'a secouée et m'a dit que Masson était remonté chez lui, il fallait déjeuner. Je me suis levée tout de suite parce que j'avais faim, mais Marie m'a dit que je ne l'avais pas embrassée depuis ce matin. C'était vrai, et pourtant j'en avais envie. Viens dans l'eau, m'a-t-elle dit. Nous avons couru pour nous étaler dans les premières petites vagues. Nous avons fait quelques brasses et elle s'est collée contre moi. J'ai senti ses jambes autour des miennes et je l'ai désirée.
Je venais pour baiser, mais j'avais à peine poussé la porte que Madeleine, la serveuse, m'a crié « La patronne n'est pas là, elle est en ville à faire des courses ». J'ai senti une vive déception au sexe, un long chatouillement désagréable. En même temps, je sentais ma chemise qui frottait contre le bout de mes seins et j'étais entouré, saisi par un lent tourbillon coloré, un tourbillon de brouillard, de lumière, dans la fumée, dans les glaces, avec les banquettes qui luisaient au fond, et je ne voyais ni pourquoi c'était là, ni pourquoi c'était comme ça. J'étais sur la porte, j'hésitais, et puis un remous se produisit. Une ombre passa au plafond et je me suis senti poussé en avant. Je flottais. J'étais étourdi par les brumes lumineuses qui m'entraînaient de partout à la fois. Madeleine est venue en flottant m'ôter mon pardessus. Et j'ai remarqué qu'elle s'était tiré les cheveux en arrière et mis des boucles d'oreilles. Je ne la reconnaissais pas. Je regardais ses grandes joues qui n'en finissaient pas de filer vers les oreilles. Au creux des joues, sous les pommettes, il y avait deux taches roses bien isolées qui avaient l'air de s'ennuyer sur cette chair pauvre. Les joues filaient vers les oreilles et Madeleine souriait. « Qu'est-ce que vous prenez, monsieur Antoine ?» Alors, la nausée m'a saisi. Je me suis laissé tomber sur la banquette. Je ne savais même plus où j'étais. Je voyais tourner lentement les couleurs autour de moi. J'avais envie de vomir. Et voilà. Depuis, la nausée ne m'a pas quitté. Elle me tient.
Il faut remettre les choses dans leur contexte. La nausée, l'étranger, ce sont les premières armes de Sartre et Camus. Deux romans dont on a pu dire qu'ils se ressemblaient, à cette différence près que ces deux théories incarnées de l'absurde débouchent pour Sartre sur le dégoût et pour Camus sur le soleil. Mais deux théories incarnées de l'absurde, deux moments, ils sont jeunes tous les deux, ils écrivent l'un l'étranger, l'autre la nausée, ce sont deux chefs-d'œuvre incontestablement, mais il y a dans la nausée autant de brume, d'obscurité, d'ombre, qu'il y a de soleil, d'âpreté, de dureté, mais de dureté toujours solaire, dans l'étranger. Est-ce qu'au fond, la vraie différence entre Sartre et Camus n'est pas une différence originelle, une différence qu'il faut faire dater du moment où ils n'avaient pas encore été ni l'un ni l'autre saisis par l'histoire et donc ils n'avaient pas pris la mesure de la dimension collective de leur travail et où finalement l'un et l'autre se distinguaient tout simplement par le climat. Bernard-Henri Lévy.
C'est bien d'avoir choisi ces deux textes parce que c'est vrai qu'en les écoutant, on entend que c'est à la fois la même chose et vraiment le contraire. Il est question des cheveux, il est question du flottement dans les deux textes, les corps qui flottent, et il est question du ne pas savoir ni pourquoi c'est comme ça, ni pourquoi c'est là. Sauf que, à partir de ces repères qui sont les mêmes, c'est exactement le contraire. Et là, je trouve ce qu'on entend là dans ces deux lectures réussies qui viennent de nous être données. C'est au-delà des manières, au-delà des tonalités, au-delà même des styles, il y a vraiment deux religions différentes. Je crois que c'est vraiment ça.
Vous diriez religion ?
Oui, le texte de Camus, c'est un texte...
Pour l'un comme l'autre, Dieu n'a jamais vécu. Hein.
Oui, mais Dieu est inconscient, comme dit le troisième, c'est-à-dire le docteur Jacques Lacan, mis à rude épreuve ces dernières semaines par... un de nos bons camarades philosophes, Dieu est quand même inconscient, donc il est inconscient chez l'un comme chez l'autre. Chez Camus, il est inconscient comme païen. Il y a une dimension païenne dans ce texte qu'on vient de lire, cette espèce d'embrasement, comme je le disais tout à l'heure, de la mer et du soleil qui est en fait un embrassement, cette fusion du corps et des éléments, ce bonheur fait d'une réconciliation magnifique avec les choses. C'est le Camus grec, c'est le Camus qui est entre Plotin et Augustin dans son premier texte, choisit Plotin ou choisit ce qui chez Augustin lui reste de Plotin, entre les deux grands Africains. C'est un Camus africain au sens de Plotin et du premier Augustin. Le deuxième, Sartre, c'est évidemment un judéo-chrétien et un judéo-chrétien de tendance protestante. Cette espèce de dégoût de la chair, enfin d'amour de la chair qui passe par le dégoût.
C'est ça le paradoxe, parce que amour de la chair qui passe par le dégoût, le texte de la nausée est dégoûtant. On a lu d'ailleurs le texte le plus édulcoré de la nausée. Le texte de la nausée est dégoûtant et en même temps il décrit abondamment, complaisamment la chair et en même temps il s'en éloigne, on sent qu'elle l'écœure. Alors que chez Camus, pour qui
Faire l'amour, disait-il, n'est pas amoral. Il dit, c'est juste une perte de temps, disait-il après. Pensant à Nietzsche qui disait, la chasteté, c'est l'économie de l'artiste. Il disait, faire l'amour, c'est juste une perte de temps. Mais ce
que Sartre, par contre, n'a jamais pensé.
Non.
Sartre passait son temps à faire l'amour, rue Claire ou ailleurs. Il n'a jamais pensé que c'est une perte de temps. Mais il pensait qu'en revanche, c'était quelque chose de profondément répréhensible, coupable et parfois répugnant. C'est tout le début de l'âge de raison. Il y a des pages dans Lettres et le Néant qui disent cela, qui disent cette fascination horrifiée de la chair. Et cette fascination horrifiée de la chair, pardon, mais ça a un nom aussi dans l'histoire des religions, ça s'appelle le péché. Le péché dont Camus disait que c'était ce qui le gênait le plus chez saint Augustin et dans le christianisme. Il disait, moi, le christianisme, j'ai pas de problème, je prends, sauf le mal radical et le péché originel. Et Sartre, lui, en revanche, il disait... Le christianisme, je ne sais même pas ce que ça veut dire, et jusqu'au dialogue avec Béni Lévy, le judaïsme encore moins, mais il y a une chose en revanche à laquelle je crois, c'est au péché originel et au mal radical. Donc c'est ça l'opposition de ces deux visions du monde. C'est des mondes sans Dieu l'un et l'autre, ça c'est sûr, mais c'est un monde qui, chez l'un, conserve cette idée d'une espèce de grand tout et de bonheur par la fusion entre de résorption de l'écart entre le silence insupportable des choses et l'aspiration à l'innocence des hommes, ça c'est Camus, il est heureux quand l'innocence des hommes se réconcilie avec le silence des choses, et ça c'est la fin du tragique, c'est la pensée du midi, c'est ce qu'il appelle littéralement, en nietzschéen, la pensée du midi. Et chez l'autre, c'est une absence de Dieu, mais enfin qui conserve quand même de l'hypothèse de Dieu l'essentiel, c'est-à-dire cette idée que la chair est désirable, tout en étant, et parce qu'elle est, dans une large mesure, parce qu'elle est coupable. Et c'est ça que dit ce texte. Donc c'est vraiment la même chose, c'est vraiment des contemporains, c'est incroyable d'ailleurs, on l'entend à quel point c'est, on ne choisit pas son époque, hein, et ni l'un ni l'autre ne l'ont choisi, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes thèmes, sauf qu'on est aux antipodes absolus du spectre et de l'échiquier, non seulement idéologique, non seulement philosophique, mais spirituel et théologique.
Ce qui n'empêchera pas Sartre de reconnaître en Camus un grand auteur avec le texte de l'étranger. Dans ce lexique, ce vocabulaire qui lui est en un sens profondément étranger. Il faut bien préciser que la nausée et l'étranger sont vraiment, comme le nom du second l'indique d'ailleurs, deux romans de l'étrangeté. De l'étrangeté du monde, du silence du monde, de la difficulté d'apprendre tout seul à être libre dans un monde qui ne nous dit rien. Avec cette dimension supplémentaire, de la même façon qu'il y a plus de soleil dans l'étranger, il y a dans l'étranger, malgré tout, un élément... Alors, vous avez dit que Camus prenait le christianisme et enlevait le péché. Il dit de Meursault, c'est le Christ que nous méritons. Il y a quand même chez Camus une lecture christique du personnage de l'étranger, alors que chez Roquentin, alors chez Sartre, Sartre-Roquentin, rien de tout cela. L'histoire de la nausée raconte l'histoire d'un homme qui passe d'une la rédaction d'une thèse d'histoire sur laquelle il s'ennuie au désir d'écrire un roman. L'histoire de l'étranger, c'est un homme qui est condamné à mort, pour le dire rapidement, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère et qu'entre-temps, il a tué quelqu'un parce qu'il avait chaud. Pour le dire là encore assez rapidement. Ça tient là-dedans. Mais il y a, chez Meursault, le personnage de l'étranger, une dimension christique, c'est l'homme qui, tranquillement, dit toujours la vérité, et qui, à cet égard, est crucifié par tous ceux qui font du Christ une idole. De sorte que le christianisme de Camus, ou le rapport de Camus à Dieu, il n'y a pas, chez Camus, on a dit tout à l'heure, on a parlé de roman sans Dieu, il faudrait peut-être complexifier un peu la chose. Si, chez Sartre, il y a une dimension judéo-chrétienne, le christianisme de Camus, lui, ou le rapport au Christ de Camus, lui, est présent sous une autre forme, peut-être.
Sous une forme nietzschéenne. Un César romain qui aurait l'âme du Christ, tu connais la formule, elle est de Nietzsche, elle pourrait être de Camus, et c'est le christianisme de Camus, c'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. Nietzsche qui s'appelait lui-même le crucifié, c'est dans tout ça que l'on est. Chez Sartre, Sartre ne se serait jamais appelé le crucifié.
Nietzsche se désignait comme Dionysos, contre le crucifié.
Oui, bien sûr. Mais enfin, à la fin, il y a des délires à Sils Maria, etc., où tout ça se mêle tout de même. Les silences, vous parliez des deux silences de l'un et de l'autre et de leur malaise et du sentiment de l'absurde face au silence. La grande différence entre les deux, c'est que chez Sartre, le silence est définitif. Le silence dans la nausée, il est définitif. À la fin de L'étranger, si j'ai bonne mémoire, il y a après la séquence avec l'aumônier, il y a cette invasion du corps de Meursault par la grande marée de, je ne sais plus, du bonheur ou du sentiment des éléments. Quelque chose se met à parler, et quelque chose se met à parler à l'unisson de la voix humaine. Le silence n'est pas définitif. Chez Sartre, le silence est irrémédiable. Et c'est pour ça que Camus est le penseur de l'absurde et que Sartre, c'est le penseur du tragique. Et c'est pas pareil, l'absurde et le tragique. Il y a là encore deux styles de rapport au monde et deux religions qui sont différentes. Encore aujourd'hui, hein, on pourrait classer les intellectuels et même les politiques d'aujourd'hui selon ce tableau-là. Quels sont ceux qui croient à l'absurde et quels sont ceux qui croient au tragique ? C'est vraiment deux familles.
Je serais curieux d'avoir des noms.
On ne va pas donner de noms, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, tous les optimistes...
Marine Le Pen, absurde ou tragique ?
Marine Le Pen, évidemment absurde. Évidemment absurde. Mais bien sûr, enfin, la plupart des gens bien croient au tragique.
On va rester dans ce débat, on va avancer dans l'époque. Il y a une date marquante pour ces deux hommes qui ont en commun d'avoir été saisis par leur siècle. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont, comme on dit en philosophie, comme disent les cuistres, des figures paradigmatiques, des modèles d'individus qui ont été happés par leur siècle et qui ont découvert l'un et l'autre grâce à, en un sens, l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de penser en termes collectifs. Alors, chez Camus, ce sera le passage du mythe de Sisyphe à l'homme révolté. Dans le mythe de Sisyphe, le suicide est la seule question philosophique vraiment sérieuse. Dans l'homme révolté, c'est le meurtre. Chez Sartre, ça prend la forme du Nietzschéen dont vous parliez, du Nietzschéen libertaire, graphomane, l'esthète nietzschéen parfaitement indifférent au sort de ses contemporains dans les années 30, ou qui en tout cas ne voit rien venir, contrairement à Raymond Aron par exemple, et qui, saisi par l'histoire, happé par l'histoire, à partir de 1945-47 avec le Rassemblement démocratique révolutionnaire, puis ensuite le compagnonnage de route, naît littéralement à la politique. On arrive là dans la seconde période et le moment de la rupture. On va entendre simultanément un extrait de la préface aux damnés de la terre de Franz Fanon, texte dont il faut préciser d'ailleurs qu'il vient après la mort de Camus. C'est un texte qui date de 1961, et un extrait de l'homme révolté. Plus exactement, d'abord un extrait de l'homme révolté, puis la préface aux damnés de la terre, comme une réponse qui en un sens aurait peut-être mal entendu la leçon. L'homme révolté date de 1951.
Il est possible de dire que la révolte, quand elle débouche sur la destruction, est illogique. Réclamant l'unité de la condition humaine, elle est force de vie et non de mort. Sa logique profonde n'est pas celle de la destruction, elle est celle de la création. Son mouvement, pour rester authentique, ne doit abandonner derrière lui aucun des termes de la contradiction qui le soutient. Il doit être fidèle au « oui » qu'il contient, en même temps qu'à ce « non » que les interprétations nihilistes isolent dans la révolte. La logique du révolté est de vouloir servir la justice, pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition, de s'efforcer au langage clair, pour ne pas épaissir le mensonge universel, et de parier face à la douleur des hommes pour le bonheur. La passion nihiliste, ajoutant à l'injustice et au mensonge, détruit dans sa rage son exigence ancienne et s'enlève ainsi les raisons les plus claires de sa révolte. Elle tue, folle de sentir que ce monde est livré à la mort. La conséquence de la révolte, au contraire, est de refuser sa légitimation au meurtre, puisque dans son principe, elle est protestation contre la mort.
Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue. Il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui progressivement les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent. Les interdits sont un à un renversés. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds.
Alors, pour le coup, Bernard-Henri Lévy, vous disiez tout à l'heure, rêvant de cette figure bicéphale, cette hybride sartro-camusien, camuso-sartrien, où l'un serait la politique de l'autre. Pour le coup, on est là, alors les textes ont 10 ans d'écart, mais d'une certaine manière, cet écart accable encore l'auteur du second, c'est-à-dire de la préface aux damnés de la terre. Le texte de Sartre est un texte qui, au mépris délibéré d'ailleurs des leçons de l'homme révolté et du fait que chez Camus la révolte culmine dans un éloge de la mesure, le texte de Sartre brise le tabou de la violence, légitime en un sens la violence. Historiquement, Sartre aura eu d'ailleurs un rôle plus lénifiant que légitimateur de la violence, on pourra revenir là-dessus, mais il y a là quand même une rupture profonde, indépendamment des polémiques qui ont accompagné la publication de l'homme révolté.
Et en effet, vous avez raison de le dire, rupture délibérée, il y a une phrase là qui est importante, de loin cela peut paraître de la barbarie, mais quand on met à y regarder plus près, etc. Donc Sartre sait très bien ce qu'il fait là, il sait très bien ce qu'il dit là, et il sait très bien ce qui, pour un entendement démocratique, c'est-à-dire camusien, est insupportable dans ce qu'il s'apprête à dire, et il le dit. C'est un Sartre qui devient fou, clairement. Et il y a eu, d'un bout à l'autre de sa vie, cette folie sartrienne. C'est incontestable. Quand on abat un Européen, on fait d'une pierre deux coups, c'est un...
Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé.
On supprime un opprimé, il reste un homme mort et un homme libre.
Et le sol national, qui plus est.
Oui, c'est monstrueux. Et voilà, il y a là une espèce d'intelligence devenue folle. Alors, avec quand même, donc ça c'est incontestable et rien n'est défendable dans ce texte-là, sauf tout de même, il n'y a pas que ça.
Après ce que vous venez d'admettre, on peut vous passer toutes les défenses.
Alors, la défense, c'est qu'on lise cette préface entièrement, c'est qu'on lise Les damnés de la terre de Fanon, qu'on lise le procès qui y est instruit, du système colonial ou du colonialisme comme système, qu'on prenne la mesure de la force discursive de cette description que l'on ne trouve pas, par exemple, chez Camus. Une fois admis que ce texte est barbare, il faut dire aussi que s'il y a eu une intelligence dans la modernité de ce qu'est le colonialisme, que ce n'est pas simplement un fruit de la méchanceté des hommes, que ce n'est pas seulement un esprit de rapine qui se serait emparé de quelques mauvais esprits, comme le croyait Camus. Quand Camus parle du colonialisme, il dit, il reprend presque le thème des 200 familles, sauf que c'est le thème des 200 colons. Il voit 200 méchants personnages ou quelques centaines d'accapareurs monstrueux faisant leur miel de la sueur d'un peuple uni, toute communauté confondue, les colons comme ceux qu'on appelait les indigènes. C'est une fausse description du système colonial. C'est passé à côté de ce qu'il avait de structuré, de systématique et de monstrueux. Chez Sartre et chez Fanon, qu'on a complètement occulté, Fanon, qui se souvient encore de lui, qui, après une préface comme celle-là, qui était une préface censée le porter et qui en vérité l'enterre, prend le soin de le lire, je voudrais quand même qu'on lise Les damnés de la terre. Je crois semble. Je recommanderais assez volontiers à ceux qui nous écoutent de passer outre ces quelques lignes démentes, voilà, parce qu'il y avait cette démence sartrienne qu'on retrouve à la fin, d'ailleurs, au moment de l'épisode Mao, qu'on retrouve au moment de l'épisode cubain, quand il écrit « Ouragan sur le sucre », qui est un texte littérairement magnifique et politiquement démentiel, qu'on retrouve quand il dit que la liberté de critique est totale et donc exemplaire en URSS après une visite guidée de datcha en datcha au pays des soviets. Une fois passé le cap de la démence, je crois qu'il faut lire quand même Fanon, qui est un des grands noms oubliés de ce temps. Et au moment où on nous parle d'identité nationale, au moment où nous avons des ministres, tu as cité tout à l'heure un nom d'un très vilain personnage politique, mais enfin, il y en a d'autres, des personnages politiques qui prétendent recommander à certains jeunes Français d'aujourd'hui comment porter leur casquette, comment s'exprimer ou comment prénommer leurs enfants.
On quitte l'absurde pour retourner au tragique, là.
Mais vous avez, dans Fanon, vous avez des textes qui répondent très exactement à ce genre de bêtises-là et qui lisent l'attitude colonialiste, la démarche du mépris raciste dans la langue de ces descriptions vestimentaires, de ces critiques de comportement, etc. Donc, par-delà cette mauvaise préface, moi je dirais, et saisissons-en, si vous le permettez, l'occasion aujourd'hui, relire, continuer de lire Fanon ou recommencer de lire Fanon.
Alors, non seulement il faut lire Les damnés de la Terre, mais il faut lire d'autres textes comme Orphée Noir, qui sont des textes de Sartre absolument magnifiques. Il y a, de toute façon, chez Sartre, un génie littéraire dont on peut penser, dont on peut dire qu'il sauve, non pas tout, mais qu'il sauve, en tout cas, qu'il justifie, en un sens, l'existence de ces textes qui n'ont pas seulement l'excuse de l'époque ou de l'histoire, mais qui ont aussi la grâce d'un style exceptionnel. Sartre écrit bien, même quand il est fou, c'est une constante. Sartre a toujours écrit admirablement. C'est un grand auteur classique. Il y a également un élément à ajouter au dossier de Sartre et de l'éventuelle folie de Sartre. C'est que quand Sartre, par exemple, a prêté son nom à la cause du peuple, il n'était alors qu'un prête-nom. Il n'était plus qu'un prête-nom, quasiment. On est dans les années 70. Il prête son nom à la cause du peuple. Et quand il prête son nom, il dit « Je cautionne tous les actes des contributeurs à la cause du peuple ». Et puis il se reprend quelques jours plus tard et il dit « Je cautionne tous les articles des contributeurs à la cause du peuple ». De sorte que, et cette anecdote, par-delà son caractère anecdotique, a ceci d'important, que Sartre lui-même, en validant la révolte, en brisant le tabou de la violence, enfin, en validant cette révolte-là, en brisant le tabou de la violence, a pu, d'une certaine manière, dans son registre, servir d'interface, d'intermédiaire avec ceux qui étaient franchement passés de l'autre côté. Sartre, en un sens, n'était pas un révolutionnaire.
C'est en effet un dossier très compliqué. D'abord, c'était pas un révolutionnaire. En tout cas, il n'était certainement pas d'origine. Vous avez rappelé vous-même les années 30, son indifférence au collectif, sa conversion tardive à l'amour du genre humain, ce côté non seulement nietzschéen, mais stendhalien. Hein. Il y a un stendhalisme de Sartre, la chasse au bonheur, etc., très individuel.
La laideur aussi.
La laideur, oui, mais la laideur comme une école du monde, comme une école du regard sur le monde et de sa disgrâce ontologique. La laideur de Sartre, elle va avec ce sentiment du tragique dont je parlais tout à l'heure. La laideur de Sartre, son strabisme étrange, etc., tout ça a probablement contribué à... Enfin, si on est un peu nietzschéen, si on croit qu'une pensée s'enracine un petit peu dans un corps et dans une biographie, a probablement contribué à façonner cette pensée désespérée d'une disgrâce et d'une boiterie fondamentale du monde. Camus nage admirablement dans la Méditerranée, le battement des petits pieds, etc., tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. On n'imagine pas Sartre nager à la manière de Camus dans les eaux de Capri. Non mais c'est vrai, parce que Sartre boite. Il y a une grâce camusienne qui fait corps avec la beauté du monde. Et puis, il y a une disgrâce sartrienne qui est le reflet de la disgrâce du monde. Ça, c'est incontestable. Alors, après, dans le rapport à la violence et à la révolution, il y a vraiment les deux. Deux exemples pour être très concret et qui concernent la même question, qui concerne la question brûlante au début des années 70 d'Israël. Au moment du massacre des athlètes israéliens à Munich, cet événement atroce, Sartre écrit un article absolument déshonorant à la cause du peuple. L'a-t-il écrit? L'a-t-il seulement signé, partiellement écrit? Je rêve d'une vraie recherche universitaire qui nous permettrait de voir clair sur ce point. Mais enfin, il le signe tout à fait dans l'esprit du texte sur Fanon qu'on vient d'entendre.
C'est là qu'il dit, n'oublions pas que ces Israéliens sont quand même des Juifs.
C'est là où... Non. C'est là où il dit, c'est là où il dit que les opprimés, et en l'espèce les Palestiniens, n'ont d'autre arme que la violence. Que la violence, le massacre des innocents, est l'arme ultime des réprouvés. C'est là où il dit ça. Et ce texte est atroce. Et puis au même moment, ou quasiment, ce drôle de bonhomme qui a refusé, qui a passé sa vie à refuser tous les honneurs, qui
accepte le doctorat honoris causa,
qui a refusé le prix Nobel de littérature, accepte un truc. Une distinction venue d'une université israélienne, doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem, et dit à ses interlocuteurs gauchistes, qui lui parlent des communes populaires chinoises, qui lui parlent du maoïsme en acte tel que la pensée Mao Zedong le promeut, il leur dit à un moment donné, dans un livre qui s'appelle « On a raison de se révolter », en vérité, ce qui veut dire non pas « on a raison de se révolter », mais « on a raison de se révolutionner », parce que ce mot de révolte, il est inapproprié. C'est un vol à l'étalage camusien. Mais il leur dit, vous savez, il y a encore un exemple, et les types sont horrifiés. Les communes populaires chinoises, très bien, mais il y a aussi les kibbutz. Et devant deux représentants de l'extrême-gauche antisioniste les plus acharnés de l'époque, il leur dit, il y a une autre expérience socialiste, progressiste, tout à fait admirable, qui est l'expérience du kibbutz israélien. Donc, Sartre, c'est vraiment les deux. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme vous le dites, c'est tenable, que c'est d'être allé bord à bord, de s'être approché au plus près du mufle de la bête qui lui a permis de lui inoculer un peu de ce bon venin anti-barbare dont je parle à l'instant, c'est possible. Il est permis de penser que c'est précisément d'avoir été aussi près qui lui a permis d'avoir cet effet vertueux, c'est possible, et d'avoir par conséquent retenu le bras avec d'autres, avec Maurice Clavel, un autre nom qui lui, hélas, parlera peut-être moins aux plus jeunes de vos auditeurs, d'avoir retenu le bras de ceux qui étaient tentés en France, comme au même moment en Italie et en Allemagne, par le radicalisme
de prendre les armes, ouais.
Et par la prise des armes.
Si je pensais, c'est Sartre qui parle à Camus, si je pensais que l'histoire fût une piscine pleine de boue et de sang, je ferais comme vous, j'imagine, et j'y regarderais à deux fois avant de m'y plonger. Mais supposez que j'y sois déjà. Supposez que de mon point de vue, votre bouderie même soit la preuve de votre historicité. Supposez qu'on vous réponde comme Marx, l'histoire ne fait rien, c'est l'homme. L'homme réel et vivant qui fait tout, l'histoire n'est que l'activité de l'homme poursuivant ses propres fins. Si c'est vrai, celui qui croit s'éloigner d'elle cessera de partager les fins de ses contemporains et ne sera sensible qu'à l'absurdité des agitations humaines. On est là au cœur de la querelle entre Sartre et Camus, querelle qui porte sur l'idolâtrie de l'histoire. Ce que Camus fustige comme idolâtrie de l'histoire, où il voit la marque d'un tempérament révolutionnaire, c'est-à-dire mortifère, c'est-à-dire dans son esprit également conservateur, en un sens. Le propos de Camus est de s'en prendre à l'idolâtrie de l'histoire en jouant, et d'une certaine manière vous aviez raison en le disant tout à l'heure, mais est-ce que ça suffit à discréditer en un sens la politique de Camus ou à minorer la politique de Camus? Je ne sais pas. Camus s'en prend à l'idolâtrie de l'histoire en jouant la nature contre l'histoire. Hein. Voilà. La nature m'a appris que l'histoire n'était pas tout. Voilà. Il retient de la nature du soleil, il retient du silence de la nature, d'une nature dont il faut bien rappeler ici que chez Camus, elle n'est pas normative, on n'est pas chez Pétain. Il ne s'agit pas de faire valoir la nature comme une norme, comme un principe. Non, la nature est un fait. La nature est un fait dont l'intelligence, dont l'intuition pacifie l'âme, le cœur, l'esprit, permet de faire la paix et permet de comprendre avant de juger. L'usage que Camus fait de la nature permet de fonder une politique. Le rapport que Sartre entretient à l'histoire, la négation de la nature qui est à l'œuvre également dans les discours de Sartre sur l'histoire, discrédite en un sens toute entreprise politique réaliste.
Deux choses. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, le refus de la dictature de l'histoire, c'est-à-dire le refus de l'idée selon laquelle on a raison parce qu'on a gagné, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, la dictature de l'histoire, ça veut dire il suffit de gagner pour dire la vérité. Il suffit d'avoir gagné pour être réputé, avoir été porteur d'une vérité qui se cherchait et qui a fini par se trouver. Ce refus de la dictature de l'histoire, alors ça c'est une chose que l'on a du mal à admettre, mais il est commun véritablement à Sartre et à Camus. Et encore une fois, je vous rappelle ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» et où il définit le collaborateur comme celui qui se plie à la dictature de l'histoire, qui se plie au maître en général, qui a une mentalité d'esclave, et Sartre dit ben, « le maître des maîtres, le maître absolu, c'est l'histoire ». Et cette histoire, il la refuse de toute son âme, de la même âme que son jumeau stellaire ou son frère ennemi Camus. Ils sont là-dessus, je crois, vraiment sur la même ligne, même si Camus en tire des conclusions que n'en tire pas Sartre, évidemment. Normalement, qu'est-ce qu'un collaborateur de Sartre aurait dû programmer, aurait dû être l'ADN, par exemple, d'un antistalinisme conséquent. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Mais enfin, si on se place, comme vous semblez le faire là, au plan de la philosophie, sur ce terrain-là, il y a communauté de vues. Ce que je crois, c'est que Camus, si j'ose dire, perd pour partie le bénéfice de son geste, le bénéfice du point de vue de la liberté des hommes, qui est le souci de l'un comme de l'autre, lorsque de ce refus de la dictature de l'histoire, il passe à l'assentiment, non pas à la dictature, mais à ce silence qui finit toujours par parler de la nature. Parce que cette nature, vous dites, silencieuse, chez Camus, c'est une nature qui ne reste jamais toujours silencieuse. Prenez tous les textes de Camus qui évoquent tout ça, où la nature est mise en scène, elle reste jamais longtemps silencieuse. C'est pas vrai. Elle finit toujours par parler, elle finit toujours par parler la langue des hommes, ou les hommes la langue de la nature, et on finit toujours par les noces, titre camusien, par les épousailles de l'homme et de la voix de la nature. Alors évidemment, c'est pas du péténisme, ça va sans dire, c'est même pas du péguisme, bien sûr que non. Mais enfin, il y a chez ce révolté, et c'est intéressant dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, cette révolte qui dit oui autant que non. Cette révolte qui dit oui.
On va y venir, oui.
Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, une révolte qui dit oui ? Très étrange quand même. Donc, il y a, je prétends, moi, une grande partie du bénéfice que les hommes pourraient tirer quant à leur propre liberté du geste camusien de rupture avec l'histoire est perdu par cette espèce d'assentiment à la nature. Chez Sartre, là, pour le coup, je pense que le geste est beaucoup plus radical, que l'aventure de la liberté est poussée beaucoup plus loin, que la solitude souveraine des hommes ou la construction risquée d'une subjectivité contre toutes les forces hostiles et contre toute forme d'extériorité, qu'elle soit celle de l'histoire ou celle de la nature, a quelque chose de beaucoup plus, pas radical, mais de beaucoup plus héroïque et par conséquent de beaucoup plus exigeant. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la trilogie romanesque de Sartre n'a pas volé son titre, Les chemins de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, quand je dis faire la paix entre Sartre et Camus, c'est la raison pour laquelle je dis que si on veut vraiment aujourd'hui penser jusqu'au bout les travaux de la liberté, penser jusqu'au bout comment ça se fabrique un homme libre, comment ça se fabrique, comment ça s'émancipe un homme qui naît serf, qui naît englué dans un nombre incalculable de prisons, ben je pense qu'il y a au moins autant à prendre et à apprendre chez Sartre que chez Camus, malgré les folies dont nous parlions tout à l'heure.
Alors, j'aurais juste un point sur le langage de la nature. Par exemple, vous parliez des noces. Dans les noces, à un moment, il dit « sans mon amour » et ce beau cri de pierre. Il parle d'un cri de pierre.
Voilà.
Ah, la pierre crie. Mais la pierre ne crie pas comme un homme, en un sens. Il n'y a que la pauvreté du vocabulaire qui impose de faire ça. Mais la métaphore masque, chez Camus, un tempérament orphique. Il ne s'agit pas de faire parler la nature, d'anthropomorphiser la nature, puisqu'il ne cesse de faire l'expérience d'un décentrement, d'un oubli de soi, oubli
Camus
de tout et du
Camus monde. Camus ne cesse de dire qu'il regrette qu'il n'y ait plus des petits temples à Delphes où l'on puisse s'initier au mystère. Alors là, vraiment...
Oui, mais les mystères, c'est les mystères d'Éleusis. C'est le moment précisément où on abjure la parole.
Un peu d'orphisme aussi.
Eh oui.
Un peu d'orphisme. Ah oui, vous dites pas orphique. Si, un peu d'orphisme aussi. La pierre qui parle. Je sais pas. Bonheur des pierres. Alors, bonheur des pierres, ça, c'est péjoratif. Hein. Dans la bouche de Camus, c'est le bonheur des âmes asservies par le totalitarisme, en effet. Mais enfin, vous ne m'enlèverez pas de l'idée. Je ne parle pas d'anthropomorphisme. Ce n'est pas la pierre qui est vue à l'image des hommes, ni peut-être les hommes qui sont vus à l'image de la pierre. Mais qu'il y ait quand même... Il y a un texte de Kojève qui m'a toujours semblé très, très, très important pour comprendre les grands débats de la philosophie contemporaine, un texte qui se trouve au début des commentaires à la phénoménologie de l'esprit, et qui dit qu'au fond, il y a deux tempéraments. Il y a le tempérament de ceux qui disent non jusqu'au bout et ceux qui disent oui jusqu'au bout.
Justement.
Eh bien voilà, Sartre... et quelqu'un qui a dit non jusqu'au bout. Il a dit non à peu près à tout. Puis il y a des gens qui ont dit oui. Alors il y a les grands oui-ouiseurs. Claudel disait oui à tout. Oui à la nature, oui à Dieu, oui au maréchal Pétain, oui au général de Gaulle, oui à la poésie, oui à l'académie, oui à tout ça. Et puis il y a des gens qui disent très souvent non. C'est le cas de l'auteur de L'Homme révolté. Et puis qui brusquement, sous le soleil, sur la roche chaude de Tipaza, dans l'eau salée de cette mer Méditerranée que j'aime plus que personne, hein, où je suis né moi-même, eh bien, se surprennent à dire un petit oui qui s'enfle à la mesure de la beauté du style et qui vient occuper tout l'espace.
Un grand merci Bernard-Henri Lévy d'être venu discuter avec nous d'Albert Camus et d'être venu le faire en sartrien, comme vous l'êtes. Il est 10h50 sur France Culture. Dans un instant, le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
David Camus, on continue aujourd'hui notre série d'entretiens donc à la suite de cette série d'émissions sur Albert Camus, dans les nouveaux chemins de la connaissance. On a beaucoup parlé hier et avant-hier du thème de la filiation, donc de la présence pour vous, le petit-fils d'Albert Camus, de votre grand-père, dans votre vie, dans votre travail également. On a parlé également de la mort d'Albert Camus. Et on finissait hier notre entretien sur l'écriture même d'Albert Camus. Vous disiez que pour vous, c'était une œuvre dans laquelle l'imagination était très présente. Et vous disiez également que vous-même, qui écriviez des romans, disons, d'aventure, aviez découvert il y a peu de temps qu'Albert Camus lui-même avait écrit à un moment qu'il voulait écrire des romans d'aventure.
Oui, quand il était jeune. Cela dit, il ne l'a pas fait. Son œuvre est pleine de vie. On voulait parler, je crois, de l'amour hein, aujourd'hui. Il y a une chose qui me frappe beaucoup. Alors moi, justement, qui suis un grand lecteur de Balzac et qui ai toujours considéré que Balzac avait un côté très fleur bleue, très sensible comme ça, j'ai toujours été frappé par le rôle ou l'absence de rôle joué par l'amour dans l'œuvre de mon grand-père. Amour, d'ailleurs, je dis ça, c'est peut-être... j'exagère peut-être. J'aurais peut-être plutôt parlé de passion. La passion, ce serait comme un peu le fanatisme de l'amour. Bon, on peut comprendre que grand-père ait été un peu allergique au côté passionné, fanatique de l'amour.
Pourquoi on peut comprendre ça?
Parce que je crois que c'est quelqu'un qui se méfie énormément des fanatismes, quels qu'ils soient. Même porté vers l'amour. Il était plus attiré... plus sensible peut-être, ou plus disposé à la tendresse, à la... Il y a quelque chose de quasi, je ne sais pas quel autre terme on peut dire que celui-ci, mais de fraternel dans ses rapports avec les femmes.
Dans sa vie ou dans son œuvre? Parce que dans son œuvre, c'est vrai qu'il y a peu... À chaque fois qu'il est question d'amour, c'est rarement jamais de l'amour passionné.
Oui, mais il y a même assez peu de femmes, finalement. Enfin, je pense, si je dois évoquer comme ça une femme dans son œuvre, je pense à Marie, dans L'Étranger.
Et Marie est une femme qu'il désire, il décrit, il y a beaucoup de descriptions de son propre désir, mais
oui.
Est-ce qu'il évoque le terme d'amour? Est-ce qu'il parle d'amour
pour
Marie?
Quand le mariage, quand la question du mariage est évoquée entre les deux, là, entre Meursault et Marie, Meursault est tout à fait prêt à se marier si elle le souhaite, hein. Mais est-ce qu'il le souhaite lui
Voilà, et là on parle de mariage et non d'amour.
Donc il peut l'épouser, comme au fond il pourrait ne pas l'épouser. Bon, ça n'empêche qu'il l'aime à sa façon, mais on a un sentiment de sensualité. Ils vont se baigner tous les deux dans la mer, ça me rappelle toujours le bain que prennent...
Là, on est dans l'étranger.
Là, on est dans l'étranger, juste. Oui. Ça me rappelle toujours le bain que prennent les deux héros de la peste. C'est très marrant. C'est une façon d'être dans la nature, malgré tout, une façon d'être présent au monde. Ça aussi, c'est une chose qui m'a vraiment frappé. On parle souvent pour grand-père de la présence de la nature. Alors, le soleil, la mer, le ciel, ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas quelle interprétation on donne de ce genre de choses. Enfin, bon, moi, ma façon de le comprendre, c'est que je suppose que dans le milieu qui était le sien, quand il a grandi dans la pauvreté, avec l'appétit de vie qui était le sien, l'appétit d'aimer malgré tout la vie, et je le dis bien aimer malgré tout, on cherche à se satisfaire de tout ce qu'on a sous la main, y compris la nature. Quand la nature vous offre la mer et le ciel et que c'est ce qu'elle a de mieux à vous offrir, eh bien, on s'en fait une fête, on s'en fait une joie. Et ça, cette capacité, je la crois très bien chez grand-père. Je pense en avoir hérité, finalement, ce qui n'est pas plus mal. Ça permet de multiplier les joies, les bonheurs.
Cette capacité d'aimer la nature.
D'aimer ce que la vie a à offrir.
Parce que finalement, c'est ça, s'il s'agit d'amour dans l'œuvre d'Albert Camus, c'est de l'amour de la vie.
Oui, mais la nature, c'est pas un écolo avant l'heure. C'est pas par fibre verte qu'il aime la nature. C'est
non,
pas
parce
ça.
Que ce sont des descriptions extrêmement sensuelles de la nature.
C'est toujours extrêmement sensuel. On a l'impression presque qu'il fait l'amour avec le monde. Cette façon-là d'être dans la vie... Dans le monde, je la comprends, j'allais dire charnellement, justement. Je la comprends intimement. Moi, je sais que j'aime me réjouir des petites choses. Alors, et des grandes aussi, tant qu'à faire. Mais c'est peut-être aussi, pour aimer la vie malgré tout, j'ai toujours dit que la question de la vie pour moi, avec ce grand-père, avait été biaisée. J'ai toujours eu le sentiment, on en avait parlé, de m'être pris vraiment un coup de pierre tombale. Et je ne dis pas pierre tombale par hasard, un coup de pierre tombale sur la tête, d'être complètement, d'être groggy, d'être sonné. À chaque fois qu'il est question de grand-père, donc d'Albert Camus, à chaque fois, je dois faire un effort de mémoire, de conscience, pour me rappeler, attention, c'est ton grand-père, n'oublie pas.
C'est-à-dire que quand vous pensez à son œuvre, quand on vous pose des questions sur l'œuvre d'Albert Camus, vous ne pensez pas en premier lieu à Albert Camus en tant que votre grand-père. Vous y pensez en tant qu'écrivain. Mais
la première fois que j'ai connu mon grand-père, comme je vous le disais lundi, c'est mon père qui me l'a lu. Donc toute l'œuvre de mon grand-père, de certaine façon, est portée par la voix de mon père. Donc quand je le lis, j'entends mon père. Me le lire, avec son phrasé, avec son humour. Et je veux croire, enfin je suppose, que dans la voix de mon père, que dans son humour, il y a quelque chose de mon grand-père. En tout cas, ça marche très bien avec son œuvre. L'humour est présent chez grand-père, mais j'allais dire même dans La Chute, ou dans l'étranger aussi. Je ne sais plus quel journaliste, je me demande, c'est pas Grimbert qui l'avait interviewé et qu'il lui avait demandé, mais de quoi auriez-vous aimé qu'on parle plus? Je crois qu'il avait dit un truc du genre l'humour.
Et c'est vrai qu'on parle un peu de l'humour dans l'œuvre d'Albert Camus.
Oui, parce qu'on prend la littérature très au sérieux. Je ne dis pas que c'est mal, mais on ne la prend malheureusement très souvent que au sérieux. Est-ce que la vie est une chose sérieuse? Je ne veux pas confondre les deux, je ne veux pas confondre la littérature et la vie. Mais au fond, on ne devrait pas porter sur la littérature un regard différent que celui qu'on porte sur la vie.
Oui, mais après, la légèreté n'est pas forcément synonyme d'humour.
Bien sûr que non. Mais on peut avoir une certaine gravité et surtout de l'humour aussi. Il y a des choses qui sont assez marrantes. Il avait l'art de la formule quand même, grand-père. Il avait une façon de... Quand il dit par exemple, c'est dans La Chute, hein, qu'il rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs et qu'une phrase leur suffira pour l'homme moderne, il forniquait et lisait les journaux, ça c'est drôle. Bon, d'ailleurs, ça vous fait rire, mais je trouve ça assez amusant. Quand il parle de la définition du charme et qu'il dit, je cite de mémoire, hein, mais que la définition du charme, c'est de s'entendre répondre oui alors qu'on n'a posé aucune question claire, moi, je trouve ça drôle. Et finalement, mais c'est pas l'humour du désespoir. Dans La Chute, tout cet humour est mis au service d'une certaine autocondamnation. Condamnation tout court du reste de l'humanité. On meurt, mais on rit. Quoi.
Voilà, Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 10h à 11h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour la suite de cette semaine sur Albert Camus. Après avoir écouté Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, vous entendrez demain Denis Salas et Jean-Yves Guérin revenir sur les questions redoutables de la peine de mort et du terrorisme dans l'œuvre d'Albert Camus. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie naturellement. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.